dans le forum avec Tony Marinaro. On se branche à Habs Radio.
11 heures de retour à BPM Sport. Je suis Marinaro avec Alex Lanto à la mise en onde. Larek Gonzalez à 11h55 jusqu'à 2h55 l'après-midi. Puis ensuite, Martin Lemay dans le retour des sportifs à 2h55 jusqu'à 5h55. Hein, parce que c'est 4 heures les jours du match, c'est ça?
Exactement. Mais les jours de match, on est en avant-match de 18 à 19.
C'est exactement ça.
Donc 17h55, la fin de l'émission aujourd'hui.
On a Denis Gauthier?
Absolument.
Moi, j'ai une information.
Ah oui?
Oui, j'ai une information comme quoi Denis Gauthier d'RDS, okay, il va être à son chalet ce soir. Et moi, je ne suis pas invité. Salut, Denis.
Salut, Tony. Salut, Alex. Comment allez-vous,
salut,
messieurs?
Ça va, toi?
J'ai une information comme quoi tu vas être au chalet ce soir puis tu as invité quelqu'un. Est-ce que j'ai les bonnes informations?
Je vais vous avouer, je suis au chalet présentement. Et oui, il y a quelqu'un qui s'en vient chez moi ce soir. J'ai un bon ami qui s'en vient...
OK. Est-ce que ton chalet est à Tremblant ou il est où?
Oui, oui.
OK. Est-ce que l'ami s'appelle Alex?
Ben oui, t'es bien plugué, Tony.
J'avais pas reçu l'invitation, Denis.
T'as-tu des photos?
J'ai pas de photos, mais je sais qu'Alex, il ressemble pas à Gérard. Donc, je savais que c'était une bonne chance.
Ouais, non, Alexandre, c'est un bon ami. C'est un ancien coéquipier que moi avec les Phantoms de Philadelphie, les Flyers.
Pis, ouais.
On est des co-citoyens de Drummondville présentement.
Ah oui. Hein?
On a des liens très, très forts ensemble. Je suis parrain et ma femme est marraine d'un de leurs fils.
Ah, oh, wow!
Une belle visite pour nous, ça, aujourd'hui.
Ah oui, c'est fantastique. Oui, je l'ai vu hier, puis il me disait qu'elle allait te rendre une visite aujourd'hui. Donc j'ai dit, ouais. Oh, ça va être le fun. Je suis content que c'est Suzuki vraiment que... Écoute, je te dis pas que c'est Suzuki le responsable, mais évidemment, il était le meilleur joueur dans ce match-là avec sa production de 2 buts, 2 passes. Parce que, Denis, comme tu sais, là, de plus en plus de personnes commençaient à dire, mais là, ils ont fait une erreur avec Suzuki comme capitaine parce que là, Gallagher se défonce à tous les matchs, puis ça aurait dû être Gallagher, puis Suzuki était trop jeune, puis je comprends pas pourquoi ils ont nommé Suzuki, puis ils n'ont pas nommé Gallagher pendant quelques saisons avant de nommer Suzuki. Donc, je suis content que Suzuki, hier, là, il a répondu en capitaine, OK? Par contre, je viens de mentionner quelque chose, puis pourquoi tu penses qu'ils n'ont pas donné le C à Gallagher et l'ont donné à Suzuki qui était encore un jeune ange? Ils pouvaient attendre avant de le donner à Suzuki parce que c'est une équipe qui était évidemment en reconstruction. Pourquoi tu penses qu'ils l'ont donné à Suzuki au lieu de Gallagher?
Bonne question. Je te dirais rapidement. Ben, en fait, on n'a pas toute l'information. On n'a pas tout le côté relationnel dans un vestiaire. On n'a pas le côté prestance. Gallagher est un gars qui mène par l'exemple. Un gars qui parle beaucoup. Est-ce qu'il a le respect de tout le monde? Puis ça, j'ai pas la réponse. Là. Je pense à voix haute. Là. Mais est-ce qu'il a l'aura d'un capitaine dans un vestiaire au quotidien ou c'est juste un bon gars qui travaille puis qui s'achampe? Puis c'est un leader en ça. Mais c'est peut-être pas le même genre de prestance qu'on recherchait à cette époque-là. On savait que Gallagher avait démontré des qualités de leader. C'est un gars qui était tranquille, qui était sérieux, qui avait une bonne éthique de travail, qui avait une influence, puis il faisait partie intégrale d'un noyau de jeunes qu'on voulait élever ensemble. Donc, on lui a donné l'opportunité. On avait du monde autour de lui qui était capable de l'épauler à Shea Weber, Carey Price à l'époque. Donc, on s'est dit, c'est un bon jeune capitaine, c'est sûr qu'il va le devenir. Puis, on a du monde autour de lui pour l'épauler, puis l'encadrer pour... s'assurer que les choses se font de la bonne façon. Fait que, tu sais, pour moi, je vois pas ça comme un problème. Je vois pas ça comme une pression de trop maintenant. On n'a jamais questionné ça jusqu'à dernièrement. Puis c'est pour ça que des fois, quand tu fais une évaluation d'une équipe, quand tu fais une évaluation de joueurs précisément, faut toujours faire attention de se laisser emporter émotivement dans des séquences courtes. Tu sais, là, on a une quinzaine, 15-16 matchs de jouer cette année. Et là, on questionne le C du capitaine de Suzuki. On aurait dû le donner à Gallagher. Et pourtant, l'année passée, l'année d'avant, ça n'a jamais été question quand le Canadien était en développement, puis qu'il avait sa part de victoire-défaite. Mais les choses, les gars travaillaient, les choses allaient bien. On a qu'une séquence de 15 de matchs, un mauvais début de saison, et tout à coup, on revient de vieux questionnements. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'est juste qu'il faut prendre un pas de recul, prendre un grand respect, puis je pense pas qu'il faut aller jusqu'à questionner le choix de Suzuki. Il a bien répondu hier, je suis content que ce soit lui, parce qu'on s'ennuyait du vrai Suzuki, du gars qui tirait son épingle du jeu, avait pas de points, je pense, dans ses 4 derniers matchs. Puis dans sa façon de se comporter, de jouer, c'était important que ça vienne d'un gars comme lui pour réaffirmer un peu mettre son étampe sur la situation qui était la série de défaites du Canadien, puis essayer de retrouver la voie de la victoire. Donc, ouais. Tu sais, good on him, c'est ouais. Parfait, mais questionnons pas les décisions qu'on a prises il y a quelques années qui, à mes yeux, étaient la bonne à ce moment-là.
Dans les dernières deux matchs, là, Martin Saint-Louis, il en a posé des gestes, puis des gestes qui ont porté fruit. Quand il a décidé d'enlever Caulfield de Suzuki, puis d'aller avec un trio Suzuki avec Doc puis Slavkovski à Toronto en fin de match, là hier, t'as vu ça à Buffalo, les trios ont fonctionné hier. Là. Caulfield, il marque ses buts en avantage numérique, il ne les marque pas avec son trio, mais tu vois, là, tu commences à voir quelque chose. Là, t'sais. Deux buts de passe de Suzuki, trois passes de Slavkovski, deux passes de Kirby Doc. Doc, là, il avait l'air beaucoup plus confortable. Doc, il a l'air plus confortable dans des matchs ouverts. Il a l'air beaucoup plus confortable. On voit que les responsabilités défensives, là, il n'est pas fou de ça.
100%. Puis je te dirais, je l'ai aimé beaucoup mieux. T'sais, même si l'avantage numérique a eu du succès hier, le Canadien est quand même 2 en 7, je crois. Kirby Doc a été meilleur à 5 contre 5 hier qu'il a été en avantage numérique. T'sais, j'ai encore des réticences et des questionnements sur sa façon de jouer, son implication par moment. Mais à 5 contre 5, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'amélioration dans son jeu. Puis, tu sais, je sais pas s'il y a un côté enthousiaste de jouer avec Suzuki, Caulfield, d'avoir des gars qui jouent quand même de façon intelligente, mais heavy, tu sais, pesante. Des gars qui ont des gabarits quand même importants. Mais Suzuki, c'est pas le plus grand. C'est un gars qui est fait solide. Slavkovski s'est imposé hier physiquement dans sa protection de rondelle, dans sa poursuite sur l'échec avant. Je pense que ça lui convient bien. Puis de soutirer ou d'enlever Caulfield de ce trio-là, je trouve que à 5 contre 5, ça va l'aider. Je sais qu'il y a une chimie qui est là depuis longtemps avec Suzuki, mais des fois, des séparés, puis de voir un nouveau look, puis de permettre à Caulfield de jouer contre un deuxième duo de défenseurs, un deuxième trio adverse, qui est peut-être un peu moins difficile à trouver des brèches, à trouver des trous offensivement, va lui permettre d'être peut-être un peu plus efficace et avoir plus de succès à 5 contre 5, puis de retrouver sa gang en avantage numérique, ce qui avait nécessairement été un gage de succès hier avec ses deux buts. Donc peut-être qu'on a le meilleur des deux mondes, on est en train de trouver une solution qui, en tout cas, à court terme, ça fonctionne, peut-être à moyen à long terme, on verra bien, mais si on se retrouve un jour avec Caulfield sur un deuxième trio, c'est parce qu'on a une meilleure équipe et on a une meilleure profondeur. Donc, on espère que ça devient le cas éventuellement.
C'était 2 en 6 l'avantage numérique des Canadiens hier. 33,3%. OK. Slavkovski hier, il a joué de loin son meilleur match de la saison. Ouais. On a vu un Slavkovski affamé, en échec avant, finir ses mises en échec. Puis moi, il a fait un jeu. Il y a deux jeux que j'ai vraiment aimés, là. Mais un des jeux, c'est la mise en échec pour gagner la bataille, pour aller prendre la rondelle. Ça, c'était un sur un but et de Suzuki. Et le deuxième, la passe qu'il a faite à Caulfield pour le deuxième but du match de Caulfield, là, tout le monde, incluant le gardien de but, pensait que Slavkovski aurait essayé de tirer, de marquer le but. Le fait qu'il a eu la vision de voir Caulfield pour lui passer cette rondelle-là, c'était fantastique ce jeu-là.
C'était fantastique, Tony. Puis, tu sais, on aurait pêché Slavkovski premier au total en disant qu'il était un marqueur naturel. On a vu ce qu'il a fait aux Champions du Monde, aux Olympiques, dans sa ligue. Puis c'est un marqueur né. On sous-estime beaucoup ses qualités de passeur. Pour vrai, là, de le voir jouer régulièrement, il fait des jeux qui sont beaucoup plus intelligents que la valeur qu'on lui mettait, en fait, de simplement un marqueur puis un gros bonhomme. Hier, ce que j'ai apprécié de Slavkovski, tu l'as mentionné, c'est probablement son meilleur match de la saison, il n'a pas été crédité avec beaucoup de mises en échec ou beaucoup de statistiques. Sur la feuille de pointage, là, c'est assez simple. C'est une mise en échec, un tir bloqué, ce qui est pas nécessairement énorme, tu sais, quand il y a même pas de tir bloqué, désolé. C'est pas énorme dans une feuille de statistiques, mais son implication et son engagement étaient beaucoup au-delà de ce qu'on voit sur une feuille de statistiques. C'est la protection de rondelle, c'est l'acharnement sur l'échec avant d'être capable de battre des défenseurs et être premier sur la rondelle. J'ai jamais douté le premier effort de Slafkovský depuis le début de saison. C'est d'aller chercher le deuxième et le troisième. Tu sais, des fois, c'est une question d'attitude, c'est une question de confiance, ou c'est une question d'approche ou de ton approche à chacun des matchs. Hier, j'ai vu un deuxième, j'ai vu un troisième effort. Puis ça, si Slafkovský a réussi à trouver une constance dans cette façon de jouer-là, va rendre tout le monde autour de lui bien meilleur. Et certainement, le Canadien va avoir plus de chances d'avoir du succès sur la feuille de pointage.
Moi, je trouve que Lane Hudson a l'air très confortable. Denis, je pense que t'en conviens. Mais hier, à l'émission de radio à TSN à Toronto, avec Jeff O'Neill. Jeff O'Neill, qui a joué dans l'Ligue nationale pendant plusieurs années, il a suggéré d'envoyer Lane Hudson à Laval. Puis son explication était de le sortir d'une culture de perdant qu'il y a à Montréal en ce moment avec la reconstruction. Écoute, moi je suis en désaccord, mais moi j'ai jamais joué, donc il y a des choses que je sais pas au niveau d'une culture dans un vestiaire, une culture qui traîne à travers une équipe de hockey. Moi je le sais pas, toi tu le sais, toi t'as joué pendant longtemps, ouais. Qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qu'il vient de dire?
Moi si le vibe est bon dans le vestiaire, s'il n'y a pas de clan, s'il n'y a pas de comportement toxique, je suis totalement en désaccord avec ce que O'Neill a dit. Puis j'ai beaucoup de respect, là. C'est une personne que je connais, j'ai déjà croisé, j'ai affronté sur la patinoire, puis je respecte beaucoup dans les médias. Mais j'ai vécu des situations, tu sais, deux situations opposées où on a faisait reconstruction, exemple à Calgary, lors de mon départ, puis on a rentré des jeunes. Il y a des joueurs qui avaient 19, 20 ans, 21 ans, des joueurs de talent à l'époque qui étaient dans cet environnement-là. Mais tu sais, on avait quand même une équipe où l'esprit d'équipe était saine, était bonne. On avait quand même du bon leadership. On manquait simplement de talent et d'expérience. Ça, pour moi, c'était très bon. J'aurais pas fait la même chose, disons, avec mon séjour avec les Flyers de Philadelphie, alors qu'il y avait un vestiaire qui était plutôt très toxique. Un grand écart, une grande discorde entre les vétérans et les jeunes qui venaient de rentrer dans cette époque-là. Puis j'aurais pas voulu voir un gars comme Lane Hudson rentrer dans un vestiaire comme ça. Tu sais, cela dit, présentement, je ne ressens pas aucune discorde chez le Canadien. Les gars se tiennent, les gars semblent apprécier, les gars, tu sais, puis d'avoir Martin, d'avoir le groupe d'entraîneurs qui sont là dans une optique ou un mode où on veut développer, on veut continuer de développer, amener le Canadien à progresser. Lane Hudson est là avec Montréal et contribue. C'est pas un gars qui survit, c'est pas un gars qui joue des minutes tranquilles, qui a pas un rôle qui est très important. C'est un gars qui est très important présentement pour le Canadien de Montréal. Donc pour moi, tant aussi longtemps que le vestiaire est sain, puis je comprends très bien, là, élever des gars dans la défaite, puis élever des gars dans des mauvais environnements, ça peut être très néfaste. Je sens pas qu'on est là avec le Canadien de Montréal présentement. Je pense que c'est des gars qui se tiennent, qui s'aiment, qui s'apprécient, puis qui veulent encore, qui apprécient leur entraîneur, qui l'écoutent encore, même s'il y en a qui le questionnent nécessairement. Moi, je le questionne pas. Puis je veux voir les notes à Montréal. Il y a encore un impact qui est très, très important chez le Canadien.
Avant la victoire hier, le Canadien avait perdu 6 matchs de suite. On écoute Martin Saint-Louis après le match.
J'ai dit ça aux boys après la game. J'ai dit, écoute, je me souviens, comme joueur, des fois, je pensais que j'aurais jamais un autre game dans la Ligue. Tu sais, des fois, quand j'étais dans la Ligue, Colin, des fois, il y a des moments où je ne scorerais plus un autre but dans la Ligue. Puis comme jeune entraîneur, je te jure, là, t'sais, là, récemment, t'sais, des fois, tu as dépassé Colin. Je vois-tu gagner nos liens dans cette ligue-là? C'est sûr. La ligue est tough, des fois. Des fois, c'est pas nécessairement comment tu joues, c'est le résultat qui t'assomme émotionnellement.
Là, je trouve le commentaire très intéressant. Pourquoi? C'est normal que Martin Saint-Louis, en étant ex-joueur, de temps en temps, quand il va parler aux joueurs, il va parler de ses expériences qu'il a vécues comme joueur. Ça, c'est normal. Le fait qu'il a dit que lui-même se demandait, par contre, comme entraîneur, s'il allait gagner un autre match. Moi, j'ai déjà dit, Denis, dans le passé, que, puis je ne sais pas, là, je ne peux pas rentrer dans la tête de Martin Saint-Louis, j'ai la misère même à rentrer dans ma tête pour savoir qu'est-ce que moi je pense des fois, OK? Mais j'ai déjà dit que de l'extérieur, des fois, je trouve que Martin Saint-Louis a pas encore, puis avec le temps, peut-être il va être en mesure de le faire, fait la transition entre joueur à entraîneur. Quand tu entends ça, est-ce que ça te laisse croire qu'est-ce que je viens de te dire ou qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait normal?
Je pense que c'est normal, mais t'enlèveras jamais le joueur à Martin Saint-Louis. T'sais, c'est sa base, ses racines, c'est là qu'il est confortable, c'est là qu'il a eu tout son succès, qui au cours de sa carrière, absolument incroyable. Donc, t'sais, il y a toujours ce côté-là, le côté passion, le côté émotion, Martin l'aura toujours. C'est sûr que ça prend un certain temps à faire une transition, et les choses ont été quand même, je te dirais, assez faciles dans cette transition présentement, parce qu'il n'y avait pas la pression de gagner. Maintenant, les choses changent un peu à Montréal, les attentes diffèrent un peu, on a mis une certaine barre où on voulait être dans le mix, donc tu sais, lui peut-être le ressent, peut-être que les joueurs le ressentent, puis je comprends son point de vue. Puis c'est sûr comme entraîneur, tu sais, les entraîneurs qui sont là depuis longtemps parlent toujours du processus, parlent toujours de la façon de jouer, puis pas s'inquiéter du résultat. Pour le joueur, je te dirais que c'est à peu près tout le temps le résultat qui compte. Tu sais, on est conscient que des fois, tu gagnes des matchs que tu devrais pas, puis tu perds des matchs que tu aurais dû gagner. Mais en bout de ligne, ce qui est toujours important pour le joueur, puis ce qui va toujours influencer ta perception du match, c'est le résultat. Donc, il y a une transition qui est pas toujours rapide, c'est un déclic. T'sais, Martin n'a pas eu 5 ans à peaufiner son art dans la Ligue américaine comme entraîneur, puis il a passé du temps comme assistant entraîneur dans la Ligue nationale avant de devenir entraîneur, c'est tout de suite là, puis ça fait pas 10 ans. Fait que je comprends sur le côté émotif que Martin est là, puis que sa perception, je te dirais même que c'est normal. Ça va prendre un peu de temps, mais j'aime quand même son approche présentement. Puis le fait que, tu sais, peu importe la façon qu'on a gagné le match hier, l'important, c'était de le gagner. Tu vois jamais le côté positif. Tu vois pas la fin d'une mauvaise série de défaites quand ça fait longtemps, puis tu dis, on s'en sortira jamais. Puis chaque jeu sur une patinoire te le rappelle. Tu sais, on marque un but hier, Anderson marque le but... le premier but du match, on s'en remarquait deux, puis la première réaction comme joueur, c'est comme « Oh boy, ça recommence », tu sais. Mais ça peut être là aussi comme entraîneur, puis l'entraîneur peut pas avoir ce genre de discours-là, mais je comprends Martin d'avoir le côté joueur en lui.
OK. Explique-moi la situation hier, là, parce que un but que les Sabres ont marqué, on a vu qu'il y avait la confusion totale entre Caden Gooley puis Mike Matheson. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, Caden Gooley, évidemment, c'est un défenseur gaucher que depuis l'an passé, on l'a mis de jouer de l'autre côté, de jouer comme défenseur droitier. Mais hier, pour le match contre les Sabres, après que Caden Gooley a fait un an comme défenseur droitier, hier, pour le match, on a dit... OK, Gooley, tu vas retourner à gauche. Et Mike Matheson, qui n'avait pas joué à droite depuis longtemps, l'avait pas fait avec le Canadien avant hier, si je ne me trompe pas, a joué défenseur droitier hier. Là, il y a un moment où est-ce que un joueur des Sabres qui descend avec la rondelle, tu as deux défenseurs, mais tu as Gooley qui se trouve du côté droit, lui qu'on a dit de jouer à gauche hier. Matheson est à gauche. Ça a l'air que Matheson veut aller à droite. Il veut faire comme un genre d'appel, un genre de criss-cross, là, avec un crossover avec Gooley. Mais Gooley lui dit non, reste là. Puis Matheson, il est confus, puis il n'arrive pas à temps. Il est déjoué, puis les Sabres marquent. Explique-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, c'est assez simple. Je pense pas que c'est dû au fait que Gooley est habitué de jouer à droite, puis Matheson à gauche depuis longtemps. C'est simple. Moi, c'est sûr. Et Matheson a l'air un peu fou dans cette séquence-là, mais c'est pas lui. La responsabilité, pour moi, revient 100% à Gooley. C'est une mauvaise lecture de sa part. Parce que si tu regardes le jeu comme il faut, Matheson est clairement à sa droite. Gooley est au centre de la glace. Matheson met de la pression autour de la ligne bleue. Il est à peu près à la largeur des points de mise en jeu. Puis c'est Gooley qui s'en vient derrière lui. J'ai l'impression qu'il s'en venait récupérer une rondelle libre potentielle si Matheson tuait le jeu-là. Il s'en venait supporter, mais il s'est retrouvé dans une position où les deux se sont trouvés à droite. Donc, puis en plus, Gooley derrière, il a tout le jeu d'en face. C'est une lecture qui, à mes yeux, semblerait facile. Tu le vois, ton partenaire est à droite. Quand même que tu joues à droite, que tu joues à gauche, des fois, sur une présence, on change de côté parce que la situation t'amène à faire ça. Mais la lecture doit être faite pour Gooley, puis pour moi, c'est lui le responsable. Il n'y avait pas d'affaire à aller à la droite. Puis il a rendu Matheson vulnérable, il l'a exposé parce que c'est lui qui a l'air un peu un fou sur le jeu, mais c'est une mauvaise lecture de Caden Gooley.
OK, donc journée de congé pour le Canadien de Montréal aujourd'hui, évidemment. Dernière question, Denis, tes impressions sur les joueurs qui ont été admis au Temple de la Renommée hier, puis on parle de Pavel Datsyuk, on parle de Jeremy Roenick, on parle de Shea Weber, et même là, ton collègue de travail, Pierre Hood, qui est rentré aussi.
Ouais, écoute, premièrement, pour Pierre Hood, félicitations, c'est un collègue absolument incroyable, c'est un vrai pro, c'est un travaillant, il est méticuleux, il est acharné dans son travail, puis je l'aurais pris dans mon équipe de hockey n'importe quand s'il était joueur, parce que c'est un gars qui a une approche absolument incroyable, puis c'est une légende, fait que c'est un collègue que j'apprécie et qu'on apprécie beaucoup à RDS, c'est ce qui est pour les joueurs. Écoute, c'est mérité dans leur cas. Des fois, tu te questionnes un peu, est-ce qu'on devrait rentrer des gars au Temple de la Renommée, qui n'ont pas gagné une Coupe Stanley, puis tu sais, la réponse est oui, parce que tu n'es pas toujours assez chanceux de gagner une coupe. Des fois, c'est circonstanciel. Des fois, tu n'es pas dans la bonne place au bon moment. Puis, un gars comme Weber, pour moi, a un impact absolument incroyable dans son jeu. C'est un défenseur dominant. Il avait des grosses pointures, des grosses chaussures à chausser quand il est arrivé à Montréal en remplaçant dans l'échange de Piqué Subban, parce qu'on se souviendra, c'est un fan favorite. C'est une personne à Montréal qu'on appréciait beaucoup et devait remplir ses souliers ici, puis il l'a fait avec brio, a rendu cette équipe-là meilleure à ce moment-là. Puis après, t'es Roenick et Datsyuk. T'sais, offensivement, il n'y a aucun doute, la passion, le caractère, l'intensité, ce que Roenick faisait sur une passion est incroyable, et Datsyuk, pour moi, c'est un méchant avec la rondelle. C'est un des meilleurs joueurs, des plus intelligents que j'ai affronté au cours de ma carrière. Puis c'est bien mérité dans leur cas, puis je te dirais que le monde du hockey ou la est content de les voir récolter ce qu'ils ont semé, parce qu'ils ont été de vrais pros au cours de leur carrière.
Excellent, Denis. On se parle bientôt, mon chum.
Bye, Tony. Bonne journée.
Merci beaucoup. Le voilà, Denis Gauthier.